Aujourd'hui, j'aimerais vous parler forcément de servir le Seigneur, mais vous savez que, en reprenant l'image du diamant, que le service est un thème tellement riche dans la parole de Dieu qu'il est comme un diamant qui a plein de facettes. Et vous pouvez l'attaquer de plein de façons différentes. Donc là, je l'ai attaqué de trois façons différentes jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de servir quelqu'un en particulier. Dans quel but? Pour pouvoir saisir la destinée que vous avez en Christ. Quelqu'un se tient entre toi, là où tu es aujourd'hui, et la destinée, là où Dieu veut t'emmener, et quelqu'un est en plein milieu. Et Dieu va faire en sorte que tu serves une personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais cette personne se tient entre toi et ta destinée. Et Dieu va la placer sur le chemin de ta destinée, et ça va être la préparation pour toi, pour que tu puisses entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi.
Amen.
Servir un homme, une femme, en particulier, qui est en fait quelqu'un qui va t'aider à te préparer pour rentrer dans ce que Dieu a planifié d'avance pour toi. Donc saisir sa destinée, c'est un des axes de la vision. Et servir le Seigneur avec joie, c'est le thème de l'année. Donc je vais mixer les deux. Je vais coupler les deux. Et je vais parler de servir quelqu'un en particulier aujourd'hui. Donc toujours le service, mais encore un autre aspect. Encore une autre façon, encore une autre perspective. Parce que j'aimerais vous faire comprendre qu'en Christ, nous avons une destinée. Et cette destinée, elle ne va pas nous tomber dessus comme des cerises mûres lorsqu'elles tombent de l'arbre. Cette destinée, il va falloir aller la chercher. Cette destinée, il va falloir aller la prendre. Cette destinée, il faut non seulement la découvrir, mais il faut la saisir. Mais ce qui me rend triste, c'est que beaucoup de personnes qui sont en Christ n'ont aucune notion de la destinée. Ils vont vous dire, oui, mais je vais au travail, métro, boulot, dodo, j'ai mari de famille. Mais après, quand vous leur posez la question, mais est-ce que tu es en train de vivre ta destinée? Est-ce que tu es en train de vivre ce que Dieu a planifié d'avance pour ta vie? Est-ce que tu es en train de suivre pleinement la voie que Dieu a tracée pour toi? Et là, les gens, ils vous regardent et vous disent, mais de quoi tu parles? Non, mais on ne m'a jamais parlé de ça. Mais en Christ, tu as une destinée. Et tu es censé l'accomplir, tu es censé l'atteindre, tu es censé rentrer dedans, mais elle ne va pas te tomber dessus, il va falloir aller la chercher, et tu vas aller la chercher en servant un homme ou une femme qui est entre toi et ta destinée. Et ça va être un point d'ancrage clé pour pouvoir saisir ce que Dieu a planifié d'avance pour toi. D'un point de vue personnel, donc simplement pour vous dire que je vais vous montrer aujourd'hui avec la parole que le service d'une personne en particulier, te connecte à ta destinée. Quand tu vas servir un homme ou une femme qui est entre toi et ta destinée, tu vas la saisir et tu vas la débloquer et ça va être une grande bénédiction pour toi. Aujourd'hui, le thème du service dans la société actuelle n'est pas très attractif. Si vous dites à quelqu'un que vous avez un type de serviteur, on va vous regarder de façon bizarre. Mais dans la parole de Dieu, le service, c'est magnifique. Le service, c'est merveilleux. Parce que vous savez quoi? Quand vous servez et vous donnez, vous recevez toujours beaucoup plus en retour. Et j'aimerais vous montrer que quand tu sers la bonne personne qui est entre toi et ta destinée, tu vas recevoir beaucoup plus en retour. Tu vas recevoir l'équipement nécessaire pour rentrer dans ce que Dieu a planifié d'avance pour toi. Je peux vous dire que dans ma vie personnelle, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, ça c'est ma fille, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, certes, mon parcours académique m'a aidé. Certes, mes études bibliques m'ont aidé. Certes, mes connexions m'ont aidé, mais si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que ça fait 10 ans que je sers le Seigneur. Et le service a été le plus grand catalyseur, le service a été le plus grand propulseur, le service a été le plus grand accélérateur pour arriver où je suis aujourd'hui. Ce n'est pas mon parcours académique, ce ne sont pas mes études bibliques, ce ne sont pas mes connexions, ce ne sont pas mes relations, c'est le service. Le service, c'est la clé pour débloquer ta destinée, parce que Dieu promet d'élever quelqu'un qui le sert. L'humilité précède la gloire. Et quand tu sers, tu apprends à être humble. Mais quand tu apprends à être humble, Dieu peut te glorifier. Et en revanche, l'orgueil précède la chute. Donc quand on refuse de servir, on refuse de s'humilier. Donc on est toujours dans l'orgueil, dans son cœur. Et Dieu ne peut pas nous le promouvoir. Il ne peut pas nous emmener dans ce qu'il a planifié d'avance pour nous. Je vais l'expliquer plus tard. Mais une destinée, elle est préétablie, mais elle n'est pas inévitable. Une destinée, elle est préétablie d'avance. Mais on va voir qu'il faut rentrer dedans et qu'il y en a certains qui ne sont pas rentrés dedans. Et tu rentres dedans lorsque tu sers concrètement. Et là, j'aimerais vous parler du service, mais d'une personne en particulier. Et comme je vous le disais avant, et ça, quand je vous souviens du message Misère Ministère, moi, ce qui attriste mon cœur, c'est que dans le corps de Christ, il y a tellement de croyants qui n'ont aucune notion, aucune idée de rentrer dans leur destinée. Mm. Non, mais je fais mes choses. Et ils arrivent à 40 ans. Alors, est-ce que tu es dans la voie que tu... Ben, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu es en train d'accomplir ce que Dieu te demande de faire. Une fois, j'ai choqué un ami à moi avec qui j'ai été baptisé d'eau. Il m'a dit, Philippe, comment tu vas? Je le vois à un mariage, je lui dis, ah, je vais tellement bien. Je suis en plein cœur de la volonté de Dieu. Il me regarde avec, un ami chrétien, il me regarde avec des yeux écarquillés. Mais tu es sûr d'être en plein cœur de la volonté de Dieu pour ma vie? J'ai fait, oui, vous savez, quand vous êtes sûr, vous perturbez les gens. Oui. J'ai fait, oui, je suis sûr. Il dit, mais comment tu peux être sûr? L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Mais il rend aussi témoignage que je suis à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, en train de faire les bonnes choses, avec suffisamment de provision pour accomplir. Vous savez, la provision, c'est pour accomplir la vision que Dieu nous a donnée.
Amen.
Donc quand tu parcours ta destinée ou quand tu es dans ta vision, la provision de Dieu, elle déclenche tout de suite. Mais les gens courent après la provision au lieu de courir après la vision. Mais la provision vient quand tu es dans ta vision. Mais quand tu cours après la vision, là, ta provision, ta vision ne sera pas déclenchée. Par contre, quand tu cours dans ta vision et dans ta destinée, la provision de Dieu sera automatiquement déclenchée.
Amen.
Et c'est pour ça que ça m'attriste, parce qu'il y a tellement de gens qui vivent avec aucune notion que Dieu leur demande de faire quelque chose de spécifique dans la vie. Donc, avant de parler du service, j'ai besoin de poser quelques fondations. Qu'est-ce que la destinée? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une destinée en Christ? Laissez-moi vous donner quelques explications. La destinée n'est pas la même chose que le destin. Le destin, c'est, implique une certaine fatalité. Alors que la destinée implique d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu pour ta vie. Par exemple, quand quelqu'un meurt à cause d'un accident de voiture, on dit « Ah ben c'était son destin ». Voilà, sa vie devait s'arrêter à ce moment-là. Alors peut-être que c'était son destin, mais ce n'était pas sa destinée. Le destin implique une fatalité. Ça devait arriver. Alors que la destinée implique d'entrer pleinement, pas un petit peu, pas trois quarts, pleinement dans la volonté que Dieu a dessinée sur ta vie avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Amen. Ça, c'est la destinée. Et si tu marches dans ta destinée, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es dedans. Mais si tu n'es pas dedans, le Saint-Esprit ne peut pas rendre témoignage. Et c'est pour ça qu'il y a de la frustration dans ton travail, c'est pour ça qu'il y a du mécontentement. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en train d'attester. Il n'est pas en train de dire oui. Est-ce que le Saint-Esprit dit oui à ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Est-ce que c'est scellé? Tu dis oui, il y a une paix intérieure, il y a une joie intérieure, il y a un épanouissement intérieur dans ce que je fais. Je sais que le Saint-Esprit rend témoignage parce que l'Esprit de Dieu connaît les plans que Dieu a dessinés sur ta vie. Le péché, c'est manquer la cible, on l'a entendu ce matin. Chaque fois que tu pèches, tu t'écartes de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Chaque fois que tu suis le Saint-Esprit, tu t'approches toujours plus de la destinée que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît les plans et les projets que Dieu a dessinés sur ta vie. Et quand on apprend à suivre l'Esprit de Dieu, automatiquement, on va marcher dans notre destinée. Mais je vous ai dit qu'une destinée, tout le monde en a une, mais il n'y a pas tout le monde qui rentre dedans. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés dans leur destinée. Mais les 10 autres espions étaient aussi destinés à rentrer dans la terre promise, mais ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi pleinement la voie de l'Éternel. Et moi, ce qui m'inquiète dans l'Église de Jésus-Christ mondiale, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas en train de suivre pleinement la voie de l'Éternel pour eux. Et certains sont même en train de refuser de désobéir au Seigneur. Le Seigneur leur dit, lâche tout, pars en mission, ils ne font pas. Change de boulot parce que tu es en train de plus rien apprendre, mais parce qu'on s'attache à une certaine sécurité financière, on désobéit à ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, et ensuite on n'obéit pas. Mais la bénédiction, elle suit l'obéissance. Je te dis ça une fois, la bénédiction, elle suit l'obéissance.
Amen.
Quand tu obéis à Dieu, tu verras sa provision automatiquement. Donc une destinée, c'est rentrer pleinement dans la volonté de Dieu pour ta vie. Comme Josué et Caleb, ils sont rentrés pleinement, mais les 10 autres espions ne sont pas pleinement entrés dans leur destinée. Deuxième chose concernant la destinée. Ta destinée, c'est les rails. Quand tu prends le train, le train suit les rails. Dieu a posé des rails sur ta vie. Mais après, c'est à toi de savoir si tu vas dérailler ou si tu vas rester dessus. Les rails sont posés pour ta vie. Elles sont posées. Les jalons sont posés. Mais c'est à toi, par tes choix, en choisissant la vie, que tu vas décider de couler sur ces rails ou si ton train va dérailler. Deuxième chose concernant la destinée. Il faut comprendre que quand Dieu crée, Il donne toujours un but à sa création. Dieu ne crée jamais par hasard. Dieu n'a pas créé le soleil par hasard. Dieu n'a pas créé la lune par hasard. Quand Dieu crée quelque chose, il donne toujours un but à sa création. Donc, s'il a créé le soleil a un but. S'il a créé la lune a un but. Demandez aux scientifiques, ils vont vous dire que c'est oui. Allons un petit peu plus loin. Si Dieu t'a créé, ton existence a un but. Ton existence a un objectif. Ton existence est censée accomplir quelque chose que Dieu te demande de faire. Ouais. Et ce n'est pas mettre au boulot dodo.
Amen.
Il y a quelque chose à saisir. Il y a une destinée à saisir. Il y a un plan à saisir. Il y a un objectif à saisir. Ce que Dieu te demande de faire. Parce que chaque fois qu'il crée, il donne un but à sa création. Donc ton existence, tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas un accident, tu es né pour accomplir une destinée. Autre chose, quand Dieu crée, il forme toujours des projets sur sa création avant la naissance. La différence entre Dieu et l'homme, c'est que l'homme se demande pourquoi il est né une fois qu'il est né. Difficile de se demander pourquoi il est né alors qu'il est encore dans le ventre de sa maman. L'homme se demande pourquoi est-ce que je suis né. Il se demande pourquoi il est né après sa naissance, alors que Dieu établit déjà la raison de ton existence avant même que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère. Dieu avait des intentions sur ta vie avant même que tu étais dans le sein de ta mère. Dieu avait des intentions sur ma fille Ella avant même qu'elle a été dans le sein de sa mère. Dieu est un Dieu d'intention. Et quand il te crée, il a une intention pour toi. Regardez ce qu'il dit, magnifique texte. Avant que je t'eusse formé, Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand Dieu crée quelque chose, il établit toujours un but pour sa création, mais quand Dieu crée quelque chose, il a déjà établi l'intention de sa création avant même que tu ne naisses. Méditez ça. À méditer. Dieu établit d'abord et ensuite il crée. Dieu établit d'abord et ensuite il crée. Dieu a d'abord établi l'intention que William allait parcourir sur la terre avant même que William ne soit dans le sein de sa mère. Mais William, lui, il peut seulement le découvrir après la naissance. Dieu l'a établi avant sa naissance, mais William ne peut le découvrir qu'après sa naissance. Et ça, c'est la grande différence entre Dieu et les hommes. Il établit avant ta naissance le but, les rails, les jalons, la direction que sont censé prendre. Pour Jérémie, sa direction, c'était prophète. Et vous savez quoi? Il a dit qu'il serait prophète, mais il lui a aussi donné le don de prophétie. Il y a un don qui correspond à ta raison de vivre. Il y a un don qui correspond à la raison pour laquelle tu es ici. Je n'enseigne pas sur le don, c'est un de mes sujets préférés, sinon je vais me perdre. La différence entre notre Dieu et tous les autres, c'est que quand il crée, il sait la fin depuis le commencement. Quand Dieu crée, il connaît la fin de ton histoire avant le commencement de ton histoire. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 46. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul ne semble. Qu'est-ce qui fait que tu es si particulier, Dieu? J'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver. Rachel, il a annoncé sur ta vie, avant le commencement, ce qui doit déjà arriver pour toi. La fin de ta vie est déjà établie pour Dieu. Parce qu'il annonce la fin dès le commencement. Je vous donne un exemple. Avant de servir le Seigneur, j'étais journaliste. Je prenais ma caméra et j'allais faire des interviews. Mais quand je revenais à mon poste de montage, je ne vais pas monter mon reportage exactement comme j'ai filmé. Je vais prendre des séquences et je vais les réorganiser pour que mon reportage soit cohérent. Et souvent, ce que je faisais, c'est que tu établis la fin du reportage et en fonction de la fin du reportage, tu retournes au début de ton reportage et tu construis ton reportage pour que ça colle à la fin que tu as déjà placée. Imaginez que c'est la même chose avec votre vie. Dieu a déjà placé la fin. Et ensuite, il fait comme ça. Il t'a planté à la fin dans ton histoire. Ensuite, il retourne en arrière. Il connaît la fin. Et maintenant, il te crée dans le sein de ta mère. Il sait exactement où il t'emmène.
Amen.
Mais c'est à nous de lui obéir et c'est à nous de nous laisser conduire.
Amen.
Aujourd'hui, vous regardez n'importe quelle série américaine, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la scène du crime au départ et toute la série consiste à refaire l'intrigue pour savoir comment on en est arrivé là. Mais Dieu a déjà établi la fin de ton histoire. Et il est retourné en arrière. Il t'a placé dans le ventre de ta mère. Et maintenant, ta fin, ta destinée, elle est là-bas, je sais exactement où elle est. Je connais, ou j'annonce, dès le commencement, ce qui doit arriver pour ta vie. Wow. Est-ce qu'on vit avec cette conscience-là? Ou est-ce qu'on fait métro, boulot, dodo, et on ne se pose pas les bonnes questions? Est-ce qu'on vit avec une notion de destinée? Est-ce qu'on vit avec une conscience que Dieu a destiné quelque chose sur notre vie? Tout ça pour vous dire qu'en Christ, nous avons donc une destinée. Cette destinée, elle consiste à quoi? Elle consiste à entrer pleinement dans les bonnes œuvres.
Amen.
Pas les mauvaises, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc le chemin, il est déjà préparé. Mais est-ce que nous allons choisir la vie? Est-ce que nous allons choisir la mort? Oh, ce verset d'Éphésiens, c'est merveilleux. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Donc ta destinée, elle est bonne.
Ouais.
Ta destinée, elle est bonne. C'est des bonnes œuvres. Et là, c'est ça qui déclenche la destinée, que Dieu a préparée d'avance. Une destinée, ça veut dire que Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres qu'il t'appelle à faire. Et ensuite, quel est le but? Afin que nous les pratiquions. Donc certains, ils ne savent pas que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour eux. Ils pensent que Dieu leur a préparé de mauvaises œuvres. Donc là, il faut déjà renouveler son intelligence. Donc Dieu a préparé de bonnes œuvres, qu'il a préparé d'avance, mais il veut que nous les pratiquions. Et il y en a beaucoup qui sont à la porte. Comme disait Bernard, ils sont à la porte, mais ils ne sont pas en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance pour eux. Mais j'aimerais vous montrer de façon très concrète, je n'ai pas perdu le fil, mais il fallait que j'établisse ceci pour vous parler de cela. Comment est-ce que je vais cheminer dans ma destinée? Tu vas cheminer dans ta destinée en servant un homme ou une femme qui se tient entre toi et ta destinée. Ta destinée, tu ne vas pas y arriver d'un coup. Ça va être une succession d'étapes, ça va être une succession de jalons à parcourir. Dieu ne peut pas donner ta destinée d'un seul coup, on n'est pas prêt. Imagine, tu diriges une société de 10 personnes, il te donne 1000 personnes à diriger, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Peut-être ta destinée, c'est diriger 1000 personnes, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Donc, il y a des choses que tu dois assimiler, des choses que tu dois être préparé pour pouvoir rentrer dans les choses plus grandes. Donc, si on n'est pas fidèle avec les petites, il ne va pas pouvoir nous donner les plus grandes. Mais un homme ou une femme se tient entre toi et ta destinée. Un homme ou une femme en particulier se tient entre toi aujourd'hui et la destinée que Dieu a préparée d'avance pour toi. Mais vu que tu n'es pas encore prêt pour ta destinée, il va falloir que tu serves un homme ou une femme en particulier qui va t'aider à te préparer pour ta destinée.
Amen.
On le voit dans toute la parole. C'est un principe avéré. C'est un principe éprouvé. Matthieu 10 nous dit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, qu'est-ce qu'il va recevoir? Une récompense de quoi? D'apôtre ou d'enseignant? Une récompense de prophète, d'accord. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'en dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse extraire de ce texte. Tu deviens comme la personne que tu sers. Tu deviens comme la personne que tu sers. Si tu sers un prophète, tu vas devenir prophète. Parce que si tu reçois quelqu'un en qualité de prophète, tu recevras quoi? Une récompense de prophète. Donc tu sers comme la personne ou tu deviens comme la personne que tu sers. Donc il faut que tu aies une notion de ta destinée. Parce que si tu es destiné à être un homme de Dieu, tu ne vas pas servir un homme politique. Tu vas perdre ton temps. Ou si tu es censé être un homme, ou alors l'inverse. Pourquoi tu sers un homme de Dieu alors que tu es appelé dans la politique? Va servir un homme politique. Tu deviens comme la personne que tu sers. C'est ce que ce verset dit. Donc une autre chose que j'aimerais qu'on retienne ici. Quand tu sers une personne, n'attends pas la récompense de la personne. Attends la récompense
Amen.
De Dieu.
Amen.
Quand tu sers une personne, n'attends pas la récompense de la personne que tu sers. Attends la récompense de Dieu. Parce que la personne que tu sers, peut-être qu'elle va te décevoir. Peut-être qu'elle ne va pas répondre à toutes tes attentes. Mais Dieu va répondre à tes attentes parce qu'il connaît les désirs de ton cœur. Et il connaît les projets. Il a déjà tracé les rails. Il a déjà posé les jalons pour que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc il y a deux choses. Tu deviens comme la personne que tu sers.
Donc tu dois avoir une notion dans quelle direction Dieu veut que tu ailles pour pouvoir rentrer dans ta destinée.
Deuxième chose, la récompense. Ne cherche pas la récompense des hommes. Attends-toi à la récompense de Dieu. Je vous ai dit qu'on trouve ce principe dans toute la parole. Laissez-moi faire un petit panorama. Joseph a servi un homme politique, Pharaon. Tu deviens comme la personne que tu sers. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Josué a servi un leader qui s'appelait Moïse. Devinez quoi? Là, tu deviens comme la personne que tu sers. Donc, Moïse, il est devenu quoi? Il est devenu leader. David a servi un roi, Saül. Devinez quoi? David est devenu roi. Élisée a servi un prophète. Est-ce qu'il est devenu apôtre? Non, il est devenu prophète. Les disciples ont servi Jésus. Du coup, ils sont devenus chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient comme Jésus. Ils imposaient les mains comme Jésus. Et quand ils les imposaient les mains, il y avait des guérisons, comme dans le ministère de Jésus. Quand ils imposaient les mains, les démonisés étaient délivrés, comme dans le ministère de Jésus. Mais ils font tout comme Jésus, on va les appeler chrétiens. Parce qu'ils ont servi Jésus, ils sont devenus comme Jésus. C'est ce qu'on est censé faire aussi aujourd'hui.
Amen.
Et Paul a servi un apôtre. Quand Paul se convertit, tous les autres avaient peur parce qu'il ravageait l'église avant. Et il y a un homme qui a dit, Barnabas, non. Je le prends sous mon aile et je vais le présenter aux autres apôtres. Vous savez quoi? Paul est devenu apôtre. Ça fait depuis janvier 2011 que je sers dans cette église. Je sers l'église en général, mais je sers un homme en particulier. Et vous savez quoi? Je suis devenu comme l'homme que je sers. J'ai même conduit sa voiture ce matin. Et comme Moïse, je suis en train de servir mon beau-père. Comme quoi, je ne suis pas le seul. Mais vous savez quoi? J'ai servi un pasteur pendant plusieurs années. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu comme la personne que, je suis servi, que j'ai servi.
Dans quelle direction Dieu t'oriente-t-il? Et quelle est la personne qui va t'aider à saisir la destinée qu'il a pour toi?
Plus précisément, pour les minutes qui me restent, je vais vous parler d'un exemple qui m'interpelle moi. Étudiez un exemple qui vous interpelle vous. Mais Josué, c'est un de mes personnages préférés dans la parole. Josué, écoutez bien, n'aurait pas pu saisir sa destinée sans servir Moïse. Josué n'aurait pas pu saisir sa destinée sans servir Moïse. En d'autres termes, quelqu'un se tenait entre Josué et la destinée de Josué, et cet homme s'appelait Moïse. Josué n'aurait pas pu accomplir ce que Dieu lui demandait de faire, ce que Dieu avait déjà planifié d'avance, avant sa naissance, sans que sur son chemin, il y ait un homme qui s'appelle Moïse. Et Josué a servi pendant 40 ans. Si tu sers pendant 5-10 ans, prends courage, parce qu'il a servi pendant 40. Et plus la destinée est grande, plus le service est long. Plus la destinée est grande, plus le service est long. Plus la préparation est longue. Dieu ne peut pas te donner une grande destinée, une petite préparation, ça ne colle pas.
Amen.
Jésus a été préparé pendant 30 ans. Et il a fait 3 ans d'action. Plus la destinée est grande, plus la préparation et le service est long. Tu ne peux pas construire un building si tu as une fondation pour une villa, ça ne colle pas. Mais sans Moïse, Josué n'aurait pas pu accomplir ou saisir sa destinée. Parce que quelqu'un se tient. Si ta destinée consiste d'aller à Nice, à Cannes, peut-être qu'à Saint-Laurent-du-Bas, peut-être qu'à Cannes-sur-Mer, quelqu'un est là. Et Dieu te demande de servir cette personne de tout ton cœur. Et ce que tu vas servir cette personne, mais ce que tu vas recevoir d'elle, de par elle, et de Dieu à travers elle, va être quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que le service, on le voit avec des yeux mercantiles. On voit ça avec le profit. Mais qu'est-ce que je vais récolter du service? Tu vas récolter ta destinée.
Amen.
Ouh, ça me plaît. Amen. Mais on voit tellement les choses avec des euros et des dollars dedans, on perd le nord. On perd le nord. Quand tu sers la bonne personne, tu vas récolter ta destinée. Parce que tu ne peux pas y entrer d'un seul coup. Rapidement. Josué était connu comme le serviteur de Moïse. Parmi le peuple, c'était hey, « Hé Josué, toi t'es le serviteur de Moïse ?»« Eh ben oui, c'est moi. » C'était son titre. Il était connu comme étant le serviteur de Moïse. Lorsque Moïse montait sur la montagne, quand il était sur le Sinaï, on disait qu'il est monté avec Josué. Josué, serviteur de Moïse. Je ne vais pas forcément prendre tous les versets. Deuxième chose, c'est que Josué, ça c'est important, Josué servait Moïse. Mais en réalité, dans son cœur, il servait Dieu, par l'intermédiaire de Moïse. Il servait un homme. Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. Tu aimeras aimer Dieu et aimer son prochain. Mais regardez en Exode 33. On voit que Josué, il ne servait pas seulement un homme. Il servait Dieu. Dans son cœur, il avait établi que c'est Dieu qu'il sert par l'intermédiaire de Moïse. Et si tu mets l'homme en-dessus de Dieu, tu vas être frustré et tu vas être déçu. Mais quand tu mets Dieu au-dessus de l'homme, tu auras les bonnes récompenses.
Amen.
Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune, quoi ?
Serviteur.
Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse allait parler avec Dieu dans la tente d'assignation qui était en dehors du camp. Il allait avoir un face-à-face avec Dieu. Alors que Moïse partait, Josué restait dans la présence de Dieu. Son leader est parti, mais lui il reste. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, il servait Dieu par l'intermédiaire d'un homme. Il avait établi que son service auprès de Dieu, c'était de servir un homme en particulier. Mais si tu sers l'homme au lieu de servir Dieu, désolé pour toi. Les bonnes priorités ne sont pas établies. On voit aussi que Josué il était tellement attaché à Moïse qu'il en devenait jaloux. Quand d'autres ont essayé de prophétiser, il voulait les empêcher. Et Moïse dit, non, c'est bien que tout le monde prophétise ici. Mais vous voyez que Josué était tellement proche de Moïse qu'il ne voulait pas que d'autres s'en approchent. C'est la personne qui se tient entre moi et ma destinée. Ne la touchez pas. C'est celle que Dieu m'a demandé de servir. Ne la servez pas, c'est moi. Josué concevait servir Moïse comme un privilège. Pour lui, c'était un privilège d'être le bras droit de Moïse. Ce n'était pas une contrainte. C'était un honneur. Comment est-ce que tu considères ton boss ? Est-ce que c'est un honneur de servir ou pas ? Comment est-ce que tu considères ton pasteur ? Est-ce que c'est un honneur de le servir ou pas ? Comment est-ce que tu considères l'homme politique que tu es censé servir ? Est-ce que c'est un honneur ou pas ? Est-ce que l'homme d'affaires que tu es censé servir, est-ce que c'est un honneur de le servir ou pas ? Ta récompense sera basée sur l'honneur que tu lui donnes. Ouh, ça c'était bon.
Ouais.
Ta récompense sera basée sur l'honneur que tu donnes à la personne que tu sers. Si tu la méprises, tu ne recevras rien d'elle. Si tu l'honores, tu auras une récompense. Ouh, ça c'était pour quelqu'un. C'est sorti de mon esprit comme ça. Josué, quatrième chose, il a reçu un esprit de sagesse par l'imposition des mains de Moïse. Vous voyez qu'il a reçu quelque chose de Moïse quand même. Mais la plus grande récompense va venir de Dieu. Mais quand même, en servant Moïse, il a reçu un esprit de sagesse.
Moïse est sur le point de mourir. Il impose les mains, c'était la volonté de Dieu, sur Moïse. Et la Bible nous dit, dans Deutéronome 34, verset 9, que Moïse a reçu un esprit de sagesse de la part de Moïse.
Il avait besoin de cet esprit de sagesse pour pouvoir continuer le mandat d'emmener le peuple de Dieu dans Canaan. Et dernière chose, Josué chapitre 1, et là on va le prendre. Josué entre pleinement dans sa destinée. Il prend le relais de Moïse. Et Dieu lui donne le mandat de prendre la terre, de conquérir. Josué 1, versets 1 et 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, encore une fois. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, en parlant à Josué, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'était la destinée de Josué. Mais il n'aurait pas pu le faire sans avoir été préparé et sans avoir servi un homme qui s'appelait Moïse, qui se tenait entre lui et sa destinée. Servir Moïse était la préparation pour Josué, chapitre 1, verset 1. Laisse-moi te dire, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu te demande de faire sans servir, et sans servir quelqu'un en particulier. C'est calme dans cette église. Josué, c'est la même racine, hein, Josué et Jésus. Josué a quand même reçu une récompense de Moïse, c'était l'esprit de sagesse.
Ouais.
Mais la plus grande récompense qu'il a reçue de Dieu, c'était l'équipement et la préparation pour accomplir sa destinée.
Ouais.
Ça, c'était le cadeau de Dieu. Ça, c'était la récompense de l'Éternel. D'avoir servi un homme fidèlement pendant 40 ans, d'avoir fait des batailles à la place de Moïse. Lorsque Moïse était en haut sur la colline avec Aaron et Hur, c'est déjà Josué qui se battait pour Moïse en bas. Josué s'est battu pour une vision que Moïse a reçue, mais que lui n'avait pas reçue. Mais après, il a été le successeur légitime et digne que Dieu a décidé que ce soit. Il a reçu un esprit de sagesse de la part l'imposition des mains de Moïse, mais il a reçu l'équipement dont il avait besoin pour accomplir sa destinée, d'emmener le peuple de Dieu dans la terre promise. Ma question, elle est simple ce matin. Vous savez que mon arrière-plan de journaliste, j'aime bien poser des questions, mais j'en ai qu'une ce matin, ça va ? Elle est simple. Mais priez là-dessus. Qui se tient entre toi et ta destinée ? Qui se tient entre toi aujourd'hui et la destinée que tu as en Christ ? Quelle est la personne qu'il va falloir servir ? À nouveau, si tu penses que tu as un mandat de la politique, il va falloir servir un homme politique parce que tu vas devenir comme la personne que tu sers. Si tu as un mandat dans le monde des affaires, il va falloir servir un homme d'affaires. Si tu as un mandat dans le monde académique, il y a peut-être un professeur d'université qu'il va falloir servir. Tu vas l'assister dans les tâches pratiques, mais quand tu assistes quelqu'un, il te transmet son savoir. Et tu en as besoin. Parce que tu ne peux pas arriver à la fin sans être passé par le milieu. Tu ne peux pas passer en passant par les escaliers du premier étage au troisième étage. Avec l'ascenseur, oui, mais pas avec les escaliers. Tu dois passer par l'étage 2. Et à l'étage 2, il y a quelqu'un qui se tient entre toi et ta destinée. Et ta destinée en dépend. Et si tu sers cette personne de tout ton cœur, tu vas saisir la destinée que Dieu a pour toi. Wow. Je finis par un témoignage. Parce que vous pensez, oui, mais ça c'est juste valable pour ceux qui veulent devenir pasteur. Non, je vous ai dit que c'était un principe avéré. J'ai un ami avec qui j'ai fait de la musique. Il a fait de la politique au niveau local et régional, en Suisse. Un jour, il avait à cœur de faire un stage aux Nations Unies à New York. Il a levé des fonds, donc de par ses fonds propres, et peut-être sa famille ou ses amis l'ont aidé, parce que vivre à New York pendant 3 mois, en sachant que tu vas faire un stage, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Mais il voulait aller apprendre ce qui se passait dans les Nations Unies à New York. Il savait qu'il avait sur lui un mandat politique, pourtant ce n'est pas quelqu'un qui est dans la foi. Mais je vous dis que les principes de Dieu sont avérés, certaines fois que vous le soyez croyant ou pas.
Ouais.
Et certaines fois, ce qui m'attriste, c'est que les non-croyants appliquent mieux les principes de Dieu que le peuple de Dieu.
Mmh.
Et ça, c'est ma misère, raison pour laquelle j'en fais mon ministère ce matin. Que le peuple de Dieu puisse comprendre les principes de Dieu.
Amen. Amen.
Cet homme qui allait servir pendant plusieurs mois aux Nations Unies, aujourd'hui, il est le bras droit de l'ancien président de la Confédération Suisse. En Suisse, ça change chaque année. Donc, cette année, c'est une femme. Mais l'année dernière, c'était un homme, à Neuchâtelois, qui s'appelle Didier Burkhalter. Et mon ami est son bras droit. Il est son lieutenant. Vous savez quoi ? Moi, je crois que parce qu'il a décidé d'aller servir quelque part, d'aller apprendre quelque part. Et vous savez quoi ? Maintenant, il est le bras droit de l'homme qui était l'homme le plus influent de la Suisse. Vous savez ? Le service est bon.
Amen.
Le service est merveilleux. Il y a des richesses extraordinaires dans le service.
Amen.
Et simplement, maintenant, il est en train de servir un homme qui est toujours dans le gouvernement. En Suisse, on appelle ça le Conseil fédéral, qui est l'équivalent du gouvernement français, c'est l'exécutif. Donc cet homme, Didier Burkhalter, est toujours dans le Conseil fédéral. Simplement, chaque année, le président change. Mais mon ami, avec qui j'ai fait de la musique, est toujours le lieutenant, le bras droit de cet homme politique. Parce qu'il sait qu'il a un mandat dans la politique. Et il veut devenir comme la personne qu'il sert.
Ouais.
Qui se tient entre toi et ta destinée ? Un professeur d'université ? Un homme de Dieu ? Un homme politique ? Un homme d'affaires ? Et peut-être vous vous dites, mais moi j'ai un certain nombre d'années maintenant. Peut-être que ma destinée, elle est peut-être plus derrière que devant. À ce moment-là, changez de chaussures et mettez-vous dans les chaussures de Moïse.
Ouais.
Et aidez la prochaine génération à entrer dans leur destinée.
Mm-hmm.
Dieu est un Dieu de génération. Abraham, Isaac et Jacob. Et votre rôle, si vous êtes avancé dans la foi et avancé dans les choses de Dieu ou avancé dans votre destinée, consiste à transmettre à la prochaine génération ce que vous savez, de sorte que quand vous partez, vous laissez un héritage et vous avez préparé la prochaine génération dans sa destinée.
Amen.
Mes amis, vous êtes tous chargés de la parole et de l'esprit. Mais quelle est la personne? Un homme? Une femme? Est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour cette personne pour vous? Vous êtes d'accord? On va se lever. J'espère avoir été assez clair en montrant que Josué n'aurait pas pu accomplir ce que Dieu lui demandait de faire sans avoir servi un homme en particulier. Père, je prie pour les bien-aimés de cette assemblée. Je te prie dans le nom de Jésus. Père, merci de leur montrer la personne qui se tient entre elle aujourd'hui et la destinée que tu as préparée d'avance pour elle. Je sais de par les Écritures que tu as dessiné un plan sur leur vie. Je sais que tu as formulé de bonnes œuvres sur leur vie. Je sais aussi, selon Jérémie 29, 11, qu'il y a des projets de paix et non de malheur, et un avenir et de l'espérance. Donc il y a des bonnes œuvres, il y a de l'avenir, il y a de l'espérance. Mais merci Saint-Esprit de montrer la personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un couple, c'est peut-être un groupe de personnes, je ne sais pas, mais Père, par ton Saint-Esprit, montre-leur. Qu'ils puissent identifier avec leur cœur cette personne qui va leur permettre d'aller plus loin dans leur destinée dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit vient de me rappeler une histoire. Il y a un homme qui pensait avoir le même mandat que Kenneth Hagin concernant le ministère de guérison. Et il a demandé à Kenneth Hagin s'il pouvait le servir. Et Kenneth Hagin lui a répondu, si c'est vrai ce que tu me dis, que tu penses avoir le même mandat que moi concernant la guérison, je veux que tu sois assis dans toutes mes réunions et que tu vois comment j'exerce le ministère. Au début, il s'est assis pour apprendre. Et à la fin, il était avec Kenneth Hagin, en train de prêcher, d'enseigner sur la guérison et de voir des malades guéris.
Amen.
Kenneth Hagin a été la personne entre lui et sa destinée. Le principe demeure le même pour aujourd'hui. Non seulement je demande au Saint-Esprit qu'il puisse vous révéler quelle est cette personne, et pour ceux pour qui peut-être c'est un peu plus lugubre, je prie que vous soyez conduits par le Saint-Esprit.
Amen.
Pour qu'il vous amène à cette bonne personne.
Amen.
Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu ne va jamais vous conduire dans le mensonge, il ne va jamais vous conduire dans l'erreur,
Amen.
Il va toujours vous conduire dans la vérité.
Amen.
Et que cette personne, vous puissiez la rencontrer et que le Saint-Esprit vous conduise à elle.
Amen.
Dans le nom de Jésus.
Amen.
Amen. Est-ce que vous avez appris quelque chose?
Amen.
J'aimerais juste vous faire comprendre que le service est magnifique.
Amen.
Que le service est beau, qu'il a plein de facettes, que ça soit dans l'église locale, que ça soit en dehors de l'église locale, que ça soit en servant une personne en particulier. Il faut qu'on redécouvre les beautés de la parole de Dieu concernant le service. Et j'ai juste envie de terminer là-dessus. Il n'y a qu'un seul homme qui se tient entre toi et ta destinée dans la gloire de Dieu. Et il s'appelle Jésus.
Amen.
Il n'y a personne d'autre. J'aimerais vous dire qu'il y en a d'autres, mais il n'y en a pas. Il n'y a personne d'autre qui peut vous ramener dans la gloire de ton Père. Il n'y a que Jésus. Donc on a parlé de votre destinée sur la terre. Mais Bernard a parlé de notre destinée après la terre. Est-ce que votre livre est inscrit dans le livre des cieux? Est-ce que votre nom, pardon, est inscrit dans le livre des cieux? Est-ce que vous avez la certitude de retourner dans la gloire de Dieu? La Bible dit que le péché nous a séparés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu laver nos péchés. Quel est le but? Ben qu'on puisse retourner dans la gloire. Mais le seul intermédiaire, le seul médiateur, le seul qui peut nous ramener dans la gloire de Dieu, il s'appelle Jésus. Parce que c'est le seul qui a versé son sang pour nous laver de nos péchés. Et puisque nos péchés ont été lavés, je peux revenir dans la gloire de mon Père. Ouh. Il n'y en a qu'un pour ta destinée céleste. Il y en a plusieurs pour ta destinée terrestre, mais pour ta destinée céleste, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'on peut prier cette prière ensemble? simplement pour déclarer que Jésus est le seul médiateur et qu'il a lavé nos péchés. Mais vous savez, quand nous sommes en Christ, il y a aussi des bonnes œuvres sur la terre qu'il veut qu'on fasse. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a que toi qui peux me conduire dans la gloire de Dieu. Par conséquent, je me détourne de mes mauvaises œuvres en plaçant ma confiance en toi et en ton sang, afin que mon passé soit lavé. Aujourd'hui, je décide d'entrer dans les bonnes œuvres. Je répète, dans les bonnes œuvres. Encore une fois, dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, de sorte à les pratiquer. Si vous n'avez jamais goûté à la bonté de Dieu, je vous donne une invitation. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait cette prière? Ou peut-être vous étiez détourné, vous avez l'impression que vous avez fait des mauvaises œuvres depuis un quelque temps, mais que c'est l'heure de rentrer dans les bonnes œuvres de Dieu. Vous pouvez lever votre main et on va prier pour vous. Oui? Deux personnes? D'accord? Trois personnes? D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ouvert leur cœur pour la première fois au médiateur, pour que les péchés soient lavés et pour que Christ en vous, l'espérance de la gloire, puisse vous conduire dans votre destinée? Le but que Christ est en vous, c'est pour vous conduire dans votre destinée. Waouh! On va ouvrir pour la prière. Les trois personnes qui ont levé votre main, vous pouvez venir auprès de Nathalie. Rebecca et moi, on va... Okay. Et Rebecca et moi, on va prier pour d'autres besoins. Rebecca voulait juste partager quelque chose.
C'est bon? Bonjour. Peut-être certains d'entre vous vous dites, mais moi je ne sais pas encore quelle est ma destinée. Parce que Pasteur Philippe a prié qu'on puisse savoir quelle est la personne que l'on doit servir. Et donc moi, en 2006, et ça m'est revenu juste pendant qu'il prêchait, la première fois que j'ai entendu ce message, c'était hier soir, donc ce n'est pas comme si j'avais eu cette révélation avant. Quand je suis revenue en France en 2006, j'ai commencé à servir en tant que fille au père. Donc j'avais besoin d'un endroit où vivre, j'avais besoin d'un travail. Donc j'étais fille au père pour une famille de l'église pendant 2 ans. Et pendant la journée, les enfants, ils étaient à l'école. Donc pendant que je servais là-bas, j'apprenais à être maman, à tenir une maison, m'occuper d'enfants. Donc c'était super. Mais j'avais du temps pendant la journée et j'ai vu un besoin. J'ai vu un besoin. Mon grand-père, ici, il était ici 3 jours par semaine, il s'occupait des livres. Et il avait besoin d'aide parce qu'il prenait de l'âge au fur et à mesure. Donc je me dis, je vais aller 2 jours par semaine lui donner un coup de main. Et donc je venais 2 jours par semaine, je donnais un coup de main. En même temps, je passais du temps avec mon grand-père. Donc il avait déjà plus de 75 ans. Et donc je commence à servir pendant 2 ans, tranquillement. Et au bout d'un moment, 2 ans plus tard, on me propose, on me dit, Rebecca, t'as vraiment les livres à cœur? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire long terme? Et j'ai sondé mon cœur et je me dis, oui, en fait, c'est quelque chose que j'avais à cœur. Et il dit, si tu veux, ton grand-père, il peut te préparer pour que tu puisses reprendre la maison d'édition. Et puis, parce qu'un jour, il va quand même gentiment prendre sa retraite, parce qu'il avait pris sa retraite pour venir ici et commencer cette œuvre. Et donc, on a eu un temps de formation, et en 2009, donc, j'ai repris les éditions Victoire. Et pendant une année encore, il était là pour me coacher, m'aider, et en 2010, il est décédé. Donc le timing, c'était vraiment le timing de Dieu. C'était son timing. Et moi, à la base, je voulais faire des études pour diriger une entreprise internationale. Je me suis dit, je parle plusieurs langues, j'aimerais faire ça. J'ai pas pu faire mes études. Dieu m'a emmené ailleurs et ensuite il m'a ramené ici. Mais au final, je dirige une entreprise qui envoie des livres dans l'international et c'est Dieu qui m'a formé sous le tas avec mon grand-père. Donc la personne entre moi et ma destinée, c'était mon grand-père. Mais je le savais pas. J'ai vu un besoin, je me suis engagée, je suis venue donner un coup de main et au final, j'ai trouvé ma destinée comme ça. Donc pour certains d'entre vous, peut-être vous dites, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures par semaine, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux servir dans l'église ou à l'extérieur? Et investissez-vous et Dieu va vous montrer quelle est votre destinée. J'avais juste ça à cœur à rajouter.